Alors, si j'ai bien compris, vous avez visité le CEA ce matin,
c'est ça.
Et on vous a expliqué la fusion ce matin.
Oui.
Donc vous savez tout maintenant. Et en plus, je crois que la plupart d'entre vous avaient assisté à ma conférence au lycée Carnot.
Tous.
Oh bah alors vous savez tout, alors c'est pas la peine que je parle. D'ailleurs, ce qu'on pourra faire, c'est essentiellement que vous posiez les questions. Si vous avez des questions, le mieux c'est de les poser et qu'on passe maximum de temps aux questions. Je ne veux pas refaire la même conférence que la dernière fois. Je finirai par m'ennuyer moi-même. Mais par contre, vous avez probablement des questions. Parce que la dernière fois, si je me souviens bien, à Dijon, on n'avait pas eu tout à fait assez de temps. J'avais été trop long, puis on n'avait pas assez de temps pour avoir un échange soutenu. Est-ce qu'il y a déjà des questions, d'ailleurs, tiens, au fond, après tout, comme ça, sur ce que vous avez vu ce matin, ou sur ce qu'on vous avait dit, c'était quand, il y a 5 semaines, quelque chose comme ça. Pas de questions, ça va venir. Oui, pardon. Non, ah non, c'était pas la main. Non, d'accord.
Ouais.
Ok, bah alors sur cette vue, c'est le site ITER tel que vous allez le voir. Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de laser ?
Non.
Il n'y a pas de laser dans un truc aussi.
Non,
ça sent le neuf, hein, vous sentez que ça sent le neuf, c'est tout neuf. La première fois que je vois ça. Donc, et alors là, vous vous trouvez, alors je vais utiliser ça. Hein. Alors, où est-ce qu'on se trouve?
Là.
On se trouve là. Donc, on se trouve là. Vous avez déjà vu pas grand-chose parce que tout bouché par les bâtiments des contractants. Donc, vous allez vous promener, vous allez être en bus sur le site. Vous allez voir. Ces objets de l'extérieur. Et moi, maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous ne pourrez pas aller à l'intérieur il y a des échafaudages, ils sont en train de lever des très grosses pièces. Mais alors, déjà, pour vous donner un ordre d'idée, ce grand bâtiment ici, à peu près 60 mètres de haut, c'est le bâtiment d'assemblage. C'est là que la machine est assemblée. L'assemblage a commencé depuis cette année. Et c'est là donc les pièces qui viennent des quatre coins du monde vont être réceptionnées, vérifiées et puis assemblées. Et puis la machine elle-même sera à l'intérieur de ce bâtiment ici qu'on appelle BioShield, une protection biologique, et à l'intérieur de ce bâtiment qui à la fin aura la même taille que celui-ci. Donc ça vous fait un complexe très impressionnant sur à peu près 40 hectares. Je vais vous montrer une autre vue dans laquelle les bâtiments et leurs fonctions sont indiqués. Alors d'abord, je vous rappelle, donc ITER, c'est une expérience scientifique, donc c'est une machine dont le but c'est de prouver, à la fois sur le plan scientifique et technologique, l'énergie de fusion. Et on considérera qu'on a gagné si cette machine fournit 500 mégawatts avec 50 mégawatts de chauffage. Donc un gain d'un facteur 10 par rapport à l'énergie injectée. Dans un premier temps, c'est un but uniquement scientifique. On fera varier les paramètres pour optimiser le procédé. Il y a beaucoup de paramètres, hein, vous allez voir, il y a des champs magnétiques, il y a des formes, il y a des courants plasma, donc il y a de très nombreux paramètres à faire varier. Et il faudra trouver l'espace des paramètres qui est le plus favorable. Hein, donc c'est vraiment le but de la machine. Ça prendra des années. Et pour le moment, donc, cette énergie assez considérable qui sera produite ne sera pas convertie en électricité, parce que cette conversion finalement est classique et on n'apprendra rien de plus en le faisant. Elle sera dissipée dans des tours qui sont en construction et qui seront je ne sais plus où, peut-être que Julie, tu sais où seront les tours de refroidissement. Ils sont en...
Les bassins, là. Non, c'est là. Pardon, je vous passe devant. C'est ici.
Ah, c'est par ici.
Il y aura les bassins et les colonnes qui montrent les travaux pour les tours.
Donc c'est en début de construction. Hein. D'accord. Bon, allez. Alors d'abord, dans un premier temps, je vais un peu rappeler les principes de base. Et puis après, on va essayer de parler plutôt des aspects technologiques. À Dijon, je vous avais parlé des motivations, vous vous souvenez ? J'avais parlé des motivations, je vous avais parlé aussi des principes, hein, donner quelques principes physiques sur lesquels on s'appuyait pour faire cette machine. Donc je vais sauter cette partie-là, puis regarder et aller plus dans les éléments de technologie qui sont en ce moment en construction. Et on montrera quelques photos là-dessus. Bon, alors, dans les chapitres précédents, je vous avais dit qu'il ne faut pas confondre fission et fusion. Hein. Ça, c'est un point essentiel. La fusion, c'est un peu le contraire de... Bien que ce soit deux énergies nucléaires, c'est un peu le contraire de la fission, puisque au lieu de casser les très gros atomes, comme l'uranium-235, eh bien, on fait fusionner, d'où son nom, les atomes les plus légers, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Donc... Le premier, c'est ce qu'on appelle le deutérium, qui a un neutron de plus que l'hydrogène classique, et le tritium, qui a deux neutrons de plus. Pourquoi est-ce qu'on choisit ces isotopes ? Parce que ce sont les plus faciles à faire fusionner. C'est ceux qui ont la probabilité de fusion la plus grande de toutes les autres réactions de fusion. Il y a beaucoup d'autres réactions de fusion, hein. Il y en a des centaines et des centaines. Dans le Soleil, il y a toute une séquence de réactions de fusion. Mais c'est celle-là qui a la section efficace, comme on dit, la plus grande, et qui se produit à une température la plus faible. Alors quand je dis la plus faible, vous allez sourire, parce que, en fait, le maximum de probabilité est environ à 150 millions de degrés. Mais c'est une température qui est nettement plus faible que les autres, que pour les autres réactions de fusion. Alors, cette réaction produit donc très temporairement, donc on a cet assemblage-là de protons et trois neutrons qui est très, très instable et produit un hélium et un neutron. L'hélium emmène 20% de l'énergie. 17 MeV par réaction. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus d'ailleurs que la réaction de fission. Et le neutron emporte 80% de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va récupérer cette énergie cinétique des neutrons et des héliums d'ailleurs. Et c'est ça qui fera notre source d'énergie. Voilà. Alors je ne répète pas ce que j'avais dit la dernière fois, mais les composants de base, c'est le deutérium qu'on trouve dans les océans. Le tritium n'existe pas dans la nature. Par contre, on le fabrique à l'intérieur de la machine à partir du lithium. Parce que ce neutron-là, on peut le faire interagir avec du lithium et il y a une réaction qui produit à ce moment-là du tritium qu'on peut donc utiliser à l'intérieur même de la machine. Donc finalement, les composants de base, les combustibles de base, c'est le deutérium et le lithium à la fin du compte. Alors, ces composants, ils existent en solution dans les océans. Il y en a pratiquement une quantité illimitée pour le restant de la vie de la planète. Le lithium est aussi plus facile à trouver sur la croûte terrestre. Il est un peu plus rare et utilisé beaucoup dans les piles. Donc, on sera tôt ou tard amené à l'extraire des océans. Bon, alors évidemment, il ne vous a pas échappé que c'est le principe qui fait fonctionner toutes les étoiles et bien sûr notre Soleil qui fonctionne donc, c'est une usine donc à fabriquer des nucléides de plus en plus lourds à partir de l'hydrogène. L'hydrogène qui a été produit au cours de l'univers primitif et qui, alors finalement, grâce à la gravité, ces masses d'hydrogène se concentrent. Et alors vous connaissez la loi de Marriott, là, PV égale NRT, la compression échauffe ce gaz, et quand la compression est suffisamment grande, à ce moment-là, un soleil, une étoile s'allume, et à ce moment-là, les réactions de fusion commencent, Et à ce moment-là, le système commence à transformer l'hydrogène, alors d'abord en hélium, puis en oxygène, puis en azote, puis etc., etc. Tout ça jusqu'au fer. Et ça s'arrête au fer, pourquoi ? Parce qu'après, la réaction n'est plus exogène, elle est endogène. Il faut fournir de l'énergie pour faire fusionner les atomes qui sont plus lourds que le fer. Alors c'est pour ça qu'il y a tellement de fer, si vous voulez, parce que c'est la réaction ultime de fusion dans les étoiles. C'est pour ça que le cœur de la Terre, c'est du fer, finalement, c'est une grande boule de fer. C'est parce que finalement, à la fin de compte, les étoiles font du fer. Alors vous me direz, mais comment se fait-il qu'il y a des éléments plus lourds ? Eh bien, ça s'est produit au cours des explosions de supernova, où il y a beaucoup d'énergie disponible, qui permet à ce moment-là, en consommant de l'énergie cette fois-ci, de faire des éléments plus lourds que le fer. Voilà, donc, et si j'appuie là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça.
Voilà. C'est lui.
C'est lui, en inspecteur, vous le connaissez ?
Oui.
Vous le connaissez personnellement ?
Très bien, très bien.
Très bien.
Non, il est mort.
Il est mort ? Ah ben oui.
99 ans.
Il est mort 99 ans. Comme vous voyez, la fusion, ça concerne.
Oui.
Alors, c'est lui le premier qui a compris, finalement, le cycle de fusion qui régit la vie des étoiles, qu'on appelle le cycle CNO, hein, carbone, azote, oxygène, qui est un cycle qui utilise certains de ces éléments comme catalyseurs pour augmenter les fréquences de ces réactions. Bon, pour faire la fusion sur Terre, on va surtout se préoccuper de la première étape, la première étape de faire fusionner les isotopes de l'hydrogène. Bon, on ne va pas plus loin. Quoi qu'on pourrait, bien sûr. Alors, en résumé, pourquoi on se passionne pour la fusion ? Ben, parce que c'est une énergie extrêmement concentrée et propre. Un gramme de DT, c'est 8 tonnes de pétrole. Les réserves sont essentiellement limitées. Ça ne produit pas de CO2. Ça ne produit pas de déchets à haute activité à vie longue, hein, contrairement à la fission avec les produits de fission. Il n'y a pas de possibilité de Tchernobyl ou de Fukushima, d'emballement de la réaction, hein, parce qu'il n'y a pas de réaction en chaîne. Ça fonctionne un petit peu comme un brûleur de gaz. Il n'y a pas de prolifération, parce qu'on ne peut pas faire de bombes atomiques avec ça. Alors par contre, c'est une science très compliquée. Hein, il va falloir faire fonctionner à 150 millions de degrés. Et vous allez voir que c'est ça qui fait... C'est la raison pour laquelle, finalement, ce n'est pas disponible maintenant, parce qu'il faut évidemment développer la science et la technologie pour arriver à se mettre dans les bonnes conditions. Alors, la science et la technologie, on va parler plasma. Bon, on va vous expliquer ce que c'est qu'un plasma, vous le savez peut-être déjà d'ailleurs. Vous avez expliqué ce matin. Il y a les matériaux qui vont jouer un rôle très important, parce que finalement, ils vont être en face d'un gaz extrêmement chaud. Et puis on va parler de supraconducteurs. Pourquoi est-ce qu'on va parler de supraconducteurs ? Ben parce que pour isoler ces températures extrêmes, on va le faire avec des champs magnétiques. Et pour créer ces champs magnétiques, on va le faire avec des supraconducteurs qui ont la propriété magique, carrément magique d'ailleurs, de ne pas avoir de résistance. Donc on peut créer les champs magnétiques sans aucune dissipation électrique. Par contre, il faut les refroidir. Donc vous allez voir qu'il va falloir faire des usines de froid, justement, pour pouvoir se mettre dans ces conditions de supraconduction. Mais au total, on va économiser énormément d'énergie en utilisant les supraconducteurs. C'est pour ça que je vais vous parler pas mal de supraconducteurs, qui est une superbe science et technologie, d'ailleurs, où ITER a poussé, d'ailleurs, cette technologie bien au-delà de ce qu'on savait faire avant. En fait, l'industrie des supraconducteurs a été multipliée par 10 grâce à ITER. Les contrats qu'a placés ITER pour faire les supraconducteurs correspondent à 10 fois plus de production de supraconducteurs qu'il n'y en avait jamais eu avant. Donc c'est pour vous montrer l'importance de ces aspects-là. Voilà. Alors, les plasmas, bon, certains les chauds, là, comme on dit, comme vous savez... quand on augmente la température, on passe d'un solide, ça fond, on passe à un liquide, ça boue, on passe à un gaz. Et puis si vous chauffez encore, qu'est-ce qui se passe ? Les électrons qui orbitent autour des noyaux ont suffisamment d'énergie pour se détacher. Donc vous vous trouvez finalement avec une assemblée d'électrons et une assemblée d'ions. Donc, et ça, c'est un milieu qu'on appelle plasma, à pas confondre avec le plasma sanguin, bien sûr. Et ces plasmas ont des propriétés physiques extrêmement différentes des gaz neutres habituels. En particulier, ces plasmas sont sensibles aux interactions collectives. C'est-à-dire qu'ils peuvent supporter une infinité d'ondes, d'ailleurs. Donc il peut y avoir des échanges constants entre l'énergie contenue dans ces plasmas et des ondes. Et ça crée des instabilités collectives. Et tout le jeu des physiciens de plasma a été de comprendre la physique de ce milieu, de le maîtriser et bien sûr de choisir des conditions dans lesquelles ces instabilités, ces ondes ont une importance modérée ou faible. On n'arrive jamais à les éliminer complètement d'ailleurs, mais on va trouver un moyen. Et un moyen, ça veut dire résoudre quand même des équations extrêmement compliquées qu'on appelle de la magnéto-hydrodynamique. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, là, qui s'intéressent aux mathématiques, s'attelleront à cette tâche-là. Ça a été très bien développé. On sait bien maintenant, finalement, décrire ces plasmas. Alors, non seulement c'est des interactions entre ondes et particules, mais aussi c'est des interactions non linéaires. C'est-à-dire que ça va dans le régime où l'énergie dans les ondes et dans les particules sont à peu près commensurables. C'est-à-dire que c'est un régime qu'on ne peut pas décrire par une perturbation linéaire. Vous avez tous dû apprendre, j'imagine. Ouh là là, ça c'est le tonnerre. Ah ben, c'est un plasma, ça, tiens, qui vient de se créer. Assez chaud d'ailleurs, hein, c'est un plasma qui va nous tomber sur la tête, peut-être. Alors les plasmas, effectivement, ça m'amène à dire qu'ils sont. C'est très courant, les plasmas, hein, finalement. Vous avez les lampes à plasma, vous avez, à chaque fois que vous faites passer un courant dans un gaz, il s'allume, ça devient un plasma. Mais enfin, en général, ils ne sont pas aussi chauds que ceux dont on va vouloir utiliser pour faire la fusion. Alors ici, vous avez une photo, d'ailleurs, d'un plasma du JET. JET, c'est le Joint European Torus, c'est la plus grande machine en opération actuellement, construite par l'Europe, en Angleterre, dans lequel vous avez effectivement ici à peu près 150 millions de degrés au centre là. Et puis ça descend à des températures normales de l'ordre de 200 degrés sur les composants face au plasma. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les plasmas. Ah oui, tiens, ça c'est les sirènes pour dire aux travailleurs qu'il y a un orage et qu'ils peuvent se mettre à l'abri, oui c'est ça. Mais nous sommes déjà à l'abri. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Ce qui est assez amusant avec les plasmas, c'est qu'à ces températures très élevées, eh bien finalement, ils ne rayonnent pas dans le visible. Hein, ils rayonnent dans des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, beaucoup plus énergiques, c'est-à-dire les rayons X ou les rayons X durs. Donc en fait, quand vous faites un plasma très chaud, vous ne voyez plus rien. Et quand vous ne voyez plus rien, c'est très bon signe d'ailleurs, parce que c'est chaud, c'est stable. Et en fait, ça redevient lumineux lorsque le plasma se refroidit. Et se neutralise sur les parois qu'on appelle le divertor ici, où on récupère les particules et l'énergie. Donc quand vous voyez beaucoup de lumière, c'est que le plasma s'est refroidi. Quand vous voyez pas de lumière du tout, c'est qu'il est très chaud. Voilà. Alors, je vous avais présenté à Dijon ce schéma-là. Je le représente parce que on va maintenant parler des différents composants. On va montrer où ils en sont. Alors tout le jeu... Hein, je vous avais même d'ailleurs fait une petite démonstration pourquoi, si on veut un gain d'énergie, il faut que le triple produit de la densité, la température, par le temps de confinement d'énergie soit plus grand. Il y a un chiffre ici, là, 10 puissance 21 par mètre cube, par terre et par seconde, qui en fait, vous pouvez écrire sous la forme d'une pression, 1 bar seconde. Puis je vous avais dit que la densité, ben, c'était très très faible. Alors, le fait qu'elle soit très faible, d'abord c'est facile à faire, et puis surtout, ça vous explique pourquoi on va réussir à faire des températures aussi élevées, ici exprimées en Kev, parce que si vous avez très peu de particules, des très hautes températures, finalement c'est assez facile à faire. Ce qui compte, c'est le produit des deux, hein. C'est le produit NT, c'est-à-dire la pression. Donc on sait faire la densité, la température, on sait aussi la faire, on l'a démontré, c'est pas aussi facile, mais on sait le faire, et finalement, Le jeu le plus difficile, c'est ce temps de confinement de l'énergie, c'est-à-dire le temps que met l'énergie. Ce n'est pas la durée de l'expérience qui est beaucoup plus longue, mais c'est le temps que met l'énergie pour aller du centre jusqu'au bord. Et c'est ça qu'il faut que ce soit plus grand qu'une certaine valeur. Alors, je vous avais dit, 4 secondes, ça ne vous paraît pas grand, mais c'est ça qui est difficile à faire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'énergie ne diffuse pas trop rapidement du centre vers les bords de la machine. Alors, si vous ne faisiez rien, si vous n'aviez pas de champ magnétique, le temps de confinement de l'énergie, qu'est-ce qui serait ? Extrêmement faible. C'est le temps d'une particule pour une particule qui est très rapide d'aller du centre sur le bord. C'est-à-dire une nanoseconde. Donc le temps de confinement d'énergie serait un milliardième de seconde. Donc bien sûr, il faut faire autre chose. Et le autre chose, c'est de mettre un champ magnétique. C'est d'utiliser un champ magnétique. Et le champ magnétique force. Alors vous avez montré quelques vues là qui montraient comment on faisait. Mais grosso modo, le champ magnétique oblige les particules à tourner en rond dans la machine et à ne jamais intercepter les parois. Parce qu'une particule ionisée suit les lignes de champ magnétique, s'enroule en fait autour des lignes de champ magnétique et ne peuvent pas aller de façon transversale sur le côté. Donc elles sont obligées de tourner comme ça indéfiniment. Donc c'est le principe même consiste à créer un champ magnétique qui va confiner ce gaz très chaud de telle façon que le temps de confinement va être supérieur à cette valeur magique. Cette valeur magique, c'est la valeur pour laquelle, finalement, vous allez produire plus d'énergie que vous n'en avez consommé pour atteindre cette température. Si votre temps de confinement est faible, eh ben, à ce moment-là, vous dépensez beaucoup d'énergie pour atteindre la température, vous n'en récoltez pas beaucoup. Donc il faut que ce soit le contraire. Voilà. Et ça indique qu'il y a une taille critique à partir de laquelle vous pouvez, d'après la physique qu'on sait faire, vous atteignez cette limite. Et cette taille critique, qu'est-ce que c'est ? C'est ITER. Hein. Donc c'est ITER, c'est la première machine au monde qui va être construite pour faire une réaction de fusion auto-entretenue où on aura fait plus d'énergie qu'on en a consommé pour atteindre cette course. C'est un peu comme un feu de bois, hein, finalement. Hein, un feu de bois, il faut l'allumer. Et puis quand l'énergie que de combustion est suffisamment grande, ben, ça consomme l'autre partie du bois. Donc là aussi, ça va être la même chose. On va créer une allumette. Alors cette allumette est un peu spéciale, hein, c'est des faisceaux de particules, etc., qui vont chauffer le plasma. Et une fois qu'il sera suffisamment chaud, ben, il va créer son hélium et son énergie de façon à entretenir la réaction. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire là maintenant ? Bon, finalement, un réacteur à fusion hein, sur la planète Terre, ça ressemblera tout à fait à ITER, ça sera un petit peu plus gros. Donc on injecte du deutérium et tritium par juste un petit capillaire, hein, ça ne va pas être très... c'est juste un petit tube dans lequel on injecte du gaz, il en faut très peu. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est 1 gramme de deutérium et tritium égale 8 tonnes de pétrole. Donc il faut mettre très peu de gaz. Vous mettez un petit peu de gaz, vous allumez la chose, ça a l'air de s'allumer au-dessus de nous aussi. Donc les neutrons et l'hélium, ensuite vous les ralentissez sur ce qu'on appelle des modules qui tapissent l'intérieur de la machine, vous le refroidissez avec un caloporteur, ensuite vous faites de la vapeur et vous faites de l'électricité avec des alternateurs. Toute cette partie-là est classique, hein, finalement. C'est la même dans tous les systèmes de production d'énergie. Ce qui n'est pas classique du tout, c'est cette partie centrale ici, dans laquelle on crée l'énergie primaire. Voilà. Alors, ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille sur ce sujet-là, en particulier pour déterminer la physique du plasma. Vous avez vu ce matin, j'imagine qu'on vous a montré West et Torsura, non ?
Oui,
on vous a montré. Donc c'est une machine comme ceci. Donc ça, c'est des machines nationales qui ont développé, si vous voulez, le procédé, mais sans faire d'énergie. Hein, développé la physique. En particulier, le Torsupra que vous avez vu ce matin, ça a été une des toutes premières machines à utiliser les supraconducteurs pour faire le champ magnétique. Et puis il y a aussi le JET. Je ne sais pas si on vous a parlé du JET, mais le JET, on vous en a parlé aussi. Hein, c'est ça. Le jet, c'est la plus grosse machine actuelle construite par l'Europe, qui a déjà fait 16 mégawatts, hein, mais avec un rendement de l'ordre de 1, en fait un peu inférieur à 1. C'est-à-dire que quand vous dites ça à l'EDF, ils disent c'est très bien, continuez, mais pour le moment ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il me faut, c'est un rendement largement supérieur à 1. Et ça, c'est ITER qui doit faire ça. Grâce au fait que l'on va finalement combiner les technologies de torque supra et du jet, c'est-à-dire les supraconducteurs plus la forme et la taille du jet, on les met ensemble et on augmente encore la taille. On passe de 80 mètres cubes à 800 mètres cubes. Et la physique nous dit qu'on doit produire 500 mégawatts avec un gain de l'ordre de 10. Encore faudra-t-il le prouver. Donc l'expérience, c'est justement de démontrer ces valeurs-là qui, pour le moment, sont simplement obtenues en extrapolant ce que l'on sait sur les machines plus petites. Mais c'est de l'extrapolation. Et à partir de ce moment-là, on aura ce qu'on appelle l'auto-chauffage, c'est-à-dire l'hélium créé par la réaction va entretenir la température. On réduira beaucoup la puissance additionnelle. Donc on aura à peu près 70% de la puissance nécessaire pour créer la température qui sera fournie par les réactions de fusion. Et le réacteur de fusion plus tard sera encore un peu plus grand. Il aura un facteur grand Q d'amplification de l'ordre de 30. Et l'auto-chauffage sera de 80 à 90%. Mais enfin, les différences entre ces chiffres sont suffisamment faibles pour dire que si on démontre ITER, on aura finalement bien démontré le procédé et on pourra passer à la phase industrielle. Voilà, alors ça, c'est encore une autre vue de cette expérience JET, hein, qui montre à gauche, donc c'est un montage, hein, à gauche, vous avez la machine vue avec un éclairage normal, et puis à droite avec son plasma dans les expériences de performance. Alors ce projet ITER, les idées quand même, la conception date des années 90, donc il a fallu, vous voyez que ça se... Finalement, ça consomme une génération, ça. Hein. C'est les années que avec les succès du jet, bon, ben, les gens se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une machine plus grosse pour faire un lien de 10. Donc il y a eu des études par une équipe internationale et qui ont abouti à une conception qui a été crédible pour les partenaires. Et après, il y a eu la question de choisir où est-ce que l'on allait construire cette expérience. Alors c'est là que vous avez peut-être lu, vous étiez trop jeune, mais c'est là que certains d'entre nous ont vu, ça a fait la une des journaux, de savoir qui allait avoir cette belle machine. Il y avait 4 candidats, le Japon, le Canada, la France et l'Espagne. Et à la fin du compte, après pas mal de rebondissements, c'est l'Europe qui a été choisie, et l'Europe a choisi Cadarache ici. Alors on peut se poser la question pourquoi. Alors il y a des aspects politiques qui seraient peut-être un peu longs de développer et un peu risqués de développer, mais il y a aussi le fait que le CEA qui est à côté, hein, le CEA ne fait pas partie de ça, mais le CEA a finalement un des très grands, si ce n'est le plus grand centre d'énergie nucléaire probablement au monde d'ailleurs, et fournit donc une assise technique, d'aide technique, tout à fait considérable, qui est susceptible de satisfaire les besoins de cette machine. Donc ça, c'est la raison objective pour laquelle Cadarache a été choisi. Alors en 2007, il y a eu la création de l'organisation internationale. Donc vous êtes ici dans l'organisation internationale, vous n'êtes pas au CEA, vous êtes quand même encore en France, mais la France a donné ce terrain et le directeur d'ITER et mettre sur son terrain. Il obéit quand même aux
lois de la République.
Aux lois de la République, oui. Peut-être pas à toutes, mais certainement aux autorités de sûreté. Oui. Ça, les autorités de sûreté, il obéit complètement. Pour ce qui est des lois de la République, alors évidemment, vous avez ici jusqu'à 2000 personnes et à peu près 700 personnes dans l'équipe internationale. Et évidemment, les statuts là sont des statuts de
chaque pays.
De, des personnes internationales, un petit peu comme à l'UNESCO, où ils sont évidemment différents des statuts français. Donc depuis ce temps-là, officiellement, l'ITER est créé. Il faut signaler qu'il y a eu une restructuration de l'organisme en 2015 pour faire une organisation de projet, c'est-à-dire pour être vraiment centré sur les aspects techniques efficaces. Et cette restructuration a conduit finalement à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et depuis, la construction fonctionne à un rythme tout à fait accéléré. Et les premiers composants, très gros composants, sont déjà arrivés et sont en cours de montage dans la machine. Alors, ensuite... Ah oui, ça, je ne résiste pas à vous montrer un homo sapiens, là, ici. Il faut le voir, il a une cravate rouge. Bon, ça, c'est une organisation internationale, dont les... Il y a 7 partenaires, finalement, comprennent 35 pays, surtout à cause de l'Europe. L'Europe qui, donc tous les pays européens, finalement, contribuent au projet. Pour le moment, il y a plus de 2000 employés sur le site. Et cette organisation est composée donc d'une équipe centrale, dont le siège est ici, qui est en charge de la conception, des spécifications, de l'assemblage, de l'opération, du suivi de la qualité. Et puis il y a 7 agences domestiques. Et les agences domestiques, c'est que chaque partenaire a pris l'engagement de construire une partie de la machine. Donc il y en a qui fournissent les bobines, d'autres la chambre à vide, d'autres le cryostat, etc. Donc chacun fournit en nature une partie de la machine, qui a été évalué comme correspondant finalement à une tranche que chacun s'engage à faire. Donc ça, c'est assez original, c'est-à-dire que le projet lui-même ne reçoit qu'environ 10% du budget pour construire la machine en argent liquide. Le reste est en nature. C'est pour ça que c'est assez difficile de dire combien coûte ITER. Parce que finalement, chacun des partenaires s'est engagé non pas sur un coût à fournir, mais sur le fait qu'il va fournir des éléments. Donc c'est à lui de se débrouiller pour que ça lui coûte le moins possible. Donc on a, bon, mais grosso modo, le coût d'ITER, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros pour la construction. Pour ceux qui ont vu le CERN, c'est grosso modo une opération de la taille du CERN. En coût, en nombre de personnel, c'est à peu près commensurable avec le grand accélérateur du CERN. Voilà. Alors, les étapes à venir, c'est en novembre, on a dépassé le mi-chemin de la construction pour obtenir le premier plasma. On en est à 57%, quelque chose comme ça maintenant. Alors bon, on ne va pas aller dans le détail de ça, mais vous voyez les gros éléments. Qui sont les bobines toroïdales, ça c'est les grandes bobines dont je vais vous montrer quelques photos, le solénoïde central, les grandes bobines poloïdales qui sont en train d'être fabriquées sur le site, la chambre à vide, et puis bien sûr le bâtiment. Vous voyez, on est en 2018, donc l'assemblage a commencé, l'assemblage des éléments, vous allez en voir d'ailleurs. L'assemblage de ce qu'on appelle le cryostat, l'intérieur dans lequel on fait le vide et qui est la plus grosse pièce. Et puis évidemment, après plusieurs étapes, en 2025, on doit arriver à faire le premier plasma qui signalera le début de l'opération. Donc vous voyez, c'est quand même sur des durées très longues. Alors pourquoi c'est si long ? Ben, parce qu'il y a des limites de budget quand même. Bon, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est aussi parce que la technologie est très lourde, ce sont des prototypes qui n'ont encore jamais été construits. Donc évidemment, ça prend du temps. Hein. Il ne s'agit pas de répéter quelque chose de connu. Il faut innover. dans un très grand nombre de domaines. Et c'est cette partie d'innovation qui demande toutes les étapes de validation, de vérification, qui prend beaucoup de temps. Alors s'il y avait plus d'argent, on irait plus vite, hein, ça c'est sûr. Beaucoup plus vite, ça reste à démontrer. Voilà, alors, vous voyez un petit peu la répartition, pour ce qui est de la machine elle-même, hein, parce qu'il y a aussi tout ce qui est autour, qui sont les fournitures en nature. Alors vous voyez par exemple que l'Inde va nous fournir ce qu'on appelle le cryostat, donc c'est l'enveloppe externe, hein, qui fait 30 mètres par 30 mètres, grosso modo c'est un cylindre de 30 mètres de diamètre par 30 mètres de haut. Alors ce grand, on fait le vide dans ce grand cylindre. Et pourquoi est-ce qu'on fait le vide? Eh bien parce que le vide est un excellent isolant thermique. Donc ça permettra d'isoler par exemple les bobines de champ, hein, qu'elles soient colloïdales ou toroïdales d'ailleurs, c'est-à-dire ces bobines-là ou ces bobines-là, ça les permet de l'isoler de l'extérieur de façon à pouvoir les refroidir. Et quand on dit refroidir, on parle sérieusement, parce que finalement ces bobines vont être à 4,5 degrés K, c'est-à-dire grosso modo moins de 169 degrés, hein, c'est-à-dire pas très loin du zéro absolu. Donc vous allez retrouver avec une machine qui est à 150 millions de degrés ici et proche du zéro absolu, quelques mètres plus loin. Donc ça, c'est le grand défi de la fusion. Alors vous allez me dire, vous êtes complètement fou, vous n'y arriverez jamais. Eh bien, le Torsupra que vous avez vu ce matin fait exactement ça. Il fait même encore mieux d'ailleurs, puisque leurs bobines sont à 1,8 degré K. Mais ils n'ont pas tout à fait 150 millions de degrés. Mais quoi qu'il en soit, ils ont démontré qu'il était possible, par des systèmes d'isolation successifs, hein, qui sont grosso modo des tores emboîtés, qu'il était possible de réaliser cette isolation thermique. La plus grande isolation thermique, bien sûr, étant le champ magnétique. Hein. C'est le champ magnétique qui fait le gros du sujet, mais pas complètement, parce qu'il faut isoler ça de l'extérieur. Et bien ça, c'est fait par le cryostat. Donc vous avez d'isolation thermique à de nombreux niveaux. Hein. Il faut aussi réfléchir le rayonnement, en particulier le rayonnement infrarouge des pièces qui sont chaudes. Ça, c'est fait par des écrans thermiques je ne sais pas si on les voit ici d'ailleurs, ils doivent être indiqués quelque part, mais ils sont un peu plus difficiles à voir, mais enfin grosso modo ce sont des pièces argentées qui réfléchissent les infrarouges là où ils pourraient compromettre la mise à froid du système. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi sur un plan d'organisation, c'est que les partenaires d'ITER partagent l'ensemble de la propriété intellectuelle. Donc, quand vous faites une innovation sur des champs magnétiques, par exemple, ou sur la construction mécanique, eh bien, tous les partenaires en profitent et peuvent l'utiliser pour construire de nouvelles machines de fusion. Alors, ça c'est le site sur lequel vous êtes maintenant, hein, je vous avais déjà montré. Alors ça date d'avril, hein. Donc c'est assez récent. Donc on voit donc le hall d'assemblage qui est ici, on voit l'axe du tokamak va être à l'intérieur de cette enceinte biologique ici et à l'intérieur de ces murs ici qui vont monter à peu près à la même hauteur que celui-ci. Parmi les bâtiments remarquables, il y a ce bâtiment-là tout au fond, qui appartient aux Indiens d'ailleurs. C'est les Indiens qui ont construit ce bâtiment pour assembler le cryostat. Vous avez vu le grand cryostat qu'on a vu, c'est là qu'on soude les différents. Ils sont fabriqués en Inde par morceaux, et ils viennent ici, et ils sont soudés dans ce bâtiment gris qui est là. C'est très impressionnant d'ailleurs, malheureusement je crois qu'on ne peut pas visiter, parce qu'ils sont en pleine soudure. Vous avez cette usine ici qui est très longue avec des bandeaux rouges, et c'est là que l'on fait le bobinage des grandes bobines qu'on appelle les bobines poloïdales. Nous enverrons une photo. Ici vous avez une usine cryogénique, c'est là que l'on fait de l'hélium liquide et de l'azote liquide pour refroidir les différents composants de la machine. Donc on refroidit d'abord à l'azote liquide, et puis après, certains composants, on descend plus bas avec l'hélium liquide. En fait, il y a un très grand nombre de compresseurs ici, et par des étages de compression et détente, c'est comme ça que l'on fait le froid. Les aliments, vous voyez d'ailleurs ici ces grands réservoirs dorés ici,
sont en fait les réservoirs dans lesquels seront stockés l'hélium, l'hélium gazeux qui va servir à faire l'hélium liquide. Ici, vous avez les alimentations électriques qui sont en cours de construction. Et ici, ce hall, ce grand hall ici, un peu exagéré par la perspective, cela dit, c'est là où on va mettre les diagnostics. Les diagnostics, c'est les moyens de mesure. Comment est-ce qu'on mesure un gaz à 150 millions de degrés ? Alors, on avait posé la question à la Chambre des Lords en Angleterre, là où il y avait le jet. Et le Lord anglais, qui ne connaissait rien à l'affaire, avait dit « Mais c'est par un très grand thermomètre !» Eh bien, non, ce n'est pas un très grand thermomètre. On utilise des systèmes optiques, comme la diffusion des lasers, par exemple. C'est comme ça qu'on mesure la température. On peut bien sûr ne rien mettre dans le plasma, car ça fondrait immédiatement. Donc on est obligé de faire des mesures qui ne perturbent pas le milieu. C'est en général des mesures optiques ou des mesures par des ondes. Mais il y en aura à peu près une cinquantaine de systèmes de mesure qui sont en fait, chacun est en fait un projet par lui-même.
J'ai une question.
Oui.
Au niveau du hall d'assemblage, donc c'est que des petites, entre guillemets, petites parties qui vont être assemblées, parce qu'après ça va être la machine entière qui va être déplacée
oui.
À l'endroit où elle doit être au final.
Voilà, alors peut-être qu'on verra des vues, mais en fait on va faire des sous-assemblées, grosso modo d'un huitième de la machine, dans le hall d'assemblage. On va avoir des instruments, d'immenses instruments d'ailleurs, qui vont permettre d'assembler en gros un huitième de la machine, une grosse part de tarte. Et puis c'est cette part de tarte que l'on va monter. C'est pour ça que c'est si haut d'ailleurs, il faut monter ça au-dessus de la machine, et on la transportera au cœur. Et après, les différents huitièmes seront assemblés ensemble. Donc la réponse à votre question, c'est oui et non. C'est-à-dire que ça va être quand même des sub-assemblées, comme on dit en anglais. Donc des
sous-ensembles.
Des sous-ensembles. Merci, voilà. Monsieur. C'est des sous-ensembles, mais des sous-ensembles qui sont eux-mêmes déjà mouse. Alors d'ailleurs, vous avez deux grues de 1500 tonnes pour transporter ces sous-ensembles à l'intérieur du hall d'assemblage. Ouais, d'ailleurs, le voilà, ce hall d'assemblage, vu d'en haut. Alors pour le moment, il est vide, quand la photo a été prise, mais maintenant, il y a justement... Dans ces deux stations ici, c'est justement les stations qui permettent d'assembler les huitièmes. C'est là que, je ne sais pas si on verra, je vais voir si j'ai une photo pour vous montrer ça. Et ça, c'est les grandes grues, 750 tonnes chacun, qui permettent donc de déplacer ces sous-ensembles vers la machine. Alors ça, c'est le... Quand elle était en train d'être construite, c'est le complexe tokamak. Et là, c'est intéressant de dire qu'il repose sur des plots parasismiques. Donc tout l'ensemble est sur 493 plots qui permet à la machine éventuellement de glisser un peu au cas où il y a un tremblement de terre. C'est une technique d'ailleurs qui est utilisée dans les centrales nucléaires en France. Ça, c'est une vue de l'intérieur donc de cette enceinte biologique. Ça, c'est une vue du haut de l'enceinte biologique. Et voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer certains de ces sous-ensembles de la machine qui permettent de nous rappeler les éléments principaux. Et parmi les éléments principaux, on a la chambre à vide. Vous voyez qu'il fait 8000 tonnes. Les bobines... de champs toroïdales qui ont cette forme en D caractéristique, qui ne sont pas circulaires. Et le solénoïde central qui est présenté ici, on ne représente simplement que les éléments ici. Et puis les bobines qui créent le champ vertical, qui sont, donc on en voit une ici, l'autre là, l'autre là, celle-ci et celle-ci. Donc ça, ce sont des bobines circulaires. De très grande taille, de 17 à 27 mètres, qui sont construites sur le site, en train d'être construites sur le site en ce moment. L'ensemble vous fait 3 tours Eiffel et demi. Une bonne partie d'ailleurs de l'acier de cette machine a été faite au Creusot, hein, pour ceux qui ont travaillé là-dedans. Il y a, je crois, eu plus de... Sur les 23 000 tonnes, je crois qu'il y a eu plus de 8 000 tonnes d'acier qui a été fourni par le Creusot aux différents assembliers de la machine, c'est-à-dire à des entreprises non seulement françaises, mais aussi internationales. Alors, les supraconducteurs, l'ensemble des bobines supraconducteurs, l'ensemble du système magnétique, c'est à peu près 30% de la machine, hein, qu'on voit. Alors, je crois que c'est pas mauvais de voir un petit peu à quoi ressemblent ces conducteurs supraconducteurs. Alors, ça peut éventuellement vous intéresser. Alors, il faut bien voir que quand on dit bobiner, le fil en question, il fait 4 cm de diamètre, hein. Donc c'est des barres, hein. c'est des barres, donc vous le tordez pas comme ça, il faut bien sûr des galettes spéciales pour le tordre. Et puis elle est faite de dizaines de milliers de brins, dans lesquels on alterne le brin supraconducteur et du cuivre. Alors pourquoi? Et puis l'ensemble, vous voyez là, il est torsadé, et l'ensemble est torsadé. Alors pourquoi est-ce qu'on prend des brins et pourquoi est-ce qu'on le torsade ? Eh bien, c'est parce que la propriété des supraconducteurs, c'est que le courant, quand vous faites passer du courant dans le supraconducteur, il passe dans la surface du supraconducteur, il ne pénètre pas à l'intérieur. Donc si vous aviez un barreau de 4 cm de diamètre, dans lequel vous voulez, il deviendrait supraconducteur, d'accord, mais le courant ne passerait qu'à la pellicule extérieure. Donc, si vous voulez faire passer beaucoup de courant, et vous ne pourriez pas faire passer beaucoup de courant à cause de ça. Donc, si vous voulez faire passer beaucoup de courant, il faut que le champ puisse pénétrer à l'intérieur. Donc, il faut diviser en de multiples brins. Je crois qu'il y a à peu près une centaine de milliers de brins. Et puis, il faut les faire tourner de façon à permettre au champ de rentrer. Donc, c'est une technologie tout à fait spéciale, très compliquée. En plus, il faut que l'hélium liquide puisse passer à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un trou. Il y a un trou au centre de façon à faire passer le refroidissement. Alors j'ai déjà dit que ça c'est le... Alors en plus, le supraconducteur c'est ce qu'on appelle le niobium-éthin, donc c'est un alliage avancé qui permet de fonctionner à des champs magnétiques très élevés, de 11 Tesla. Donc c'est... Et on peut dire, je crois, que ITER a poussé l'industrie de ce supraconducteur à des hauteurs qui ne sont jamais atteintes, hein, qui n'ont jamais été atteintes jusqu'à présent. Je souligne que l'ensemble du câble supraconducteur est fabriqué. Il reste 10 minutes, hein, c'est ça.
Alors, on a un petit souci technique, c'est qu'on est en alerte rouge, donc on ne va pas pouvoir visiter le chantier. Donc là, on donne quand même 10 minutes pour la fin de la présentation. Après, si vous voulez regarder un peu les maquettes à côté, et au cas où on entend un niveau d'alerte qui se lève, on pourra faire un petit tour. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas visiter le chantier. J'ai des postes de garde.
On peut aussi aller au toit, non?
Non, alerte rouge, il faut vraiment rester...
Il faut rester ici.
Dans les bunkers.
Ben, j'ai peur, je vais être obligé de vous faire une conférence de 3 heures.
Non, parce qu'ils doivent partir, leur bus doit partir à 3h30 absolument pour le chauffeur.
Ah oui, d'accord.
Donc, dans tous les cas, on a 10 minutes de présentation et après...
D'accord, ok.
Voilà, donc il reste 10 minutes.
Ben, vous nous prévenez si jamais on peut... Si l'alerte rouge... À ce moment-là, je m'arrête immédiatement et puis on fonce regarder. Hein. D'accord? Ok. Voilà, sur les supraconducteurs. Alors, je crois que il faut les refroidir. Hein, et ça, c'est l'usine de refroidissement. Alors ça va être aussi l'usine à froid la plus grande du monde, hein, quand elle sera construite, car il faut refroidir un ensemble tout à fait considérable de pièces. C'est plus important aussi qu'au CERN, hein, parce que le CERN utilise aussi des bobinages supraconducteurs, hein, mais leurs bobines sont beaucoup plus petites. Ok, alors ça c'est l'usine... qui se trouve sur le site, hein, qu'on ne va pas pouvoir voir, bravo, dans lequel on fait ces grandes bobines qui, je crois, étaient en vert sur mon premier petit schéma, dans lequel, vous voyez le câble, le fameux câble d'environ 4 cm
de côté, hein, qui, que, ici il n'est pas circulaire, il est sous forme rectangulaire, hein, ils sont un petit peu différents. Donc on est en train de faire des, ce qu'on appelle des galettes, donc de l'entourer autour de ça. Et puis alors une fois que c'est fait, ben, on met une isolation dessus. Alors, vous voyez d'ailleurs, ça c'est le... Ah oui, ça ce sont les rollers, là, comment est-ce qu'on dit ça? Ce sont, je ne sais plus comment on dit ça en français, qui permettent de donner la forme au supraconducteur, donc lui donner la courbure. On fait passer ça dans des cylindres d'acier. Ça le fait tourner. On l'isole, sur la même station, on l'isole, parce qu'il y a aussi des champs électriques sur lesquels qu'il faut isoler. Et puis on fait un certain nombre de tours comme ça. Alors ça, c'est un des objets qui entre dans la construction de ce qu'on appelle la bobine toroïdale. C'est celle qui crée le champ magnétique principal, qui a donc cette forme en D caractéristique. Donc vous voyez la taille. Donc l'ensemble d'ailleurs, donc c'est dans ces nervures que vont être placés le cadre supraconducteur. Donc toutes ces plaques sont maintenant construites, hein, elles ont été construites en partie en Italie et en partie à la CNIM, hein, dans la Seine-sur-Mer, hein, près de Toulon. Ce sont des objets tout à fait impressionnants, non seulement par leur taille, mais par leur précision, puisque finalement ces cannelures ont des précisions qui sont inférieures au millimètre, hein, sur ces très grandes dimensions. Donc ces objets-là sont déjà en partie en place dans les bobines toroïdales. En fait, ils sont à l'intérieur de cette... Voici le cœur d'une bobine toroïdale qui est terminée. Il y en a quatre maintenant qui sont terminées. Donc il y a à l'intérieur ces plaques que vous avez vues cannelées, dans lesquelles le câble est bobiné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le winding pack. Hein. En français, comment est-ce qu'on dirait winding pack? Je demande à mon traducteur.
Je sais pas, oui.
Le winding pack.
Oui, bah, c'est le bobinage.
Les galettes. Hein,
galettes de bobinage.
Les galettes de bobinage. Les galettes de bobine, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on fait des galettes dans un tour, et puis les galettes, on passe dans le tour d'après, etc. Alors, par-dessus ça, évidemment, ces objets-là sont soumis à des forces électromagnétiques considérables. Hein, je ne sais pas si on vous a appris, là, l'énergie magnétique, là, B carré sur 2 mu 0, là. Donc, il y a une pression magnétique considérable. Hein, donc, quand vous faites passer le courant là-dedans, au maximum du courant, finalement, ça crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique, finalement, a tendance à faire exploser la bobine, donc à créer une pression. En fait, c'est cette pression magnétique qui tient le plasma, qui tient la pression du plasma. En fait, il y a cet équilibre de pression, et c'est ça qui crée le confinement. Mais alors, évidemment, cette pression s'exerce sur cette structure et tend à la déformer, à la casser. Donc, l'ensemble de cette structure est ensuite placé dans une coquille en acier, très très solide, pour tenir les efforts électromagnétiques. Donc là, elle n'est pas finie, il reste encore à mettre deux grandes coquilles en acier pour tenir les efforts. Je ne sais pas si on va le voir, mais on ne va pas le voir. Non, ce qu'on voit là, si c'est... Une fois qu'on a bobiné cette bobine, il faut ensuite la faire cuire à, je pense que c'est 700 degrés pendant des dizaines d'heures, de façon à ce que l'alliage niobium-éthin se forme. Et atteignent ces propriétés. Donc l'ensemble de cette bobine rentre dans ce four pour être cuite. Alors ces bobines ont déjà été mises à froid, ont déjà été testées. Elles ne sont pas toutes construites, hein, mais il y en a quatre qui sont construites sur l'ensemble. Alors d'ailleurs, tiens, je parlais de cette casing en anglais, là. J'ai appelé ça coquille en français, c'est pas bon, la boîte, c'est une boîte.
Oui, oui.
C'est une boîte.
L'enveloppe.
Une enveloppe,
mettons. Voilà, enveloppe.
Voilà, qui va autour, vous voyez, qui va autour de cette bobine, ça c'est l'enveloppe métallique qui est en acier extrêmement, extrêmement fort, et à la fin de la construction, ça donne cet objet-là. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le câble est fait dans un endroit, certaines parties des bobines dans un autre, le bobinage dans un troisième, l'enveloppe en acier dans un quatrième. Donc l'ensemble de ces bobines voyage autour du monde pour faire cette construction. Donc c'est véritablement une prouesse hein, de vérifier la qualité de toutes ces opérations dans tous ces endroits et de faire en sorte que toutes les dimensions soient respectées à une fraction de millimètre près. Donc c'est vraiment une entreprise mondiale dont on peut dire d'ailleurs que c'est tout à fait original. Bon, alors ça, c'est d'autres fabrications en cours. Vous voyez, ça, c'est bien des transformateurs qu'on va utiliser. Ils sont sur place, d'ailleurs, ces transformateurs. Si on pouvait aller sur le site, on les verrait. Ça, c'est le solénoïde central, le grand solénoïde qu'il y avait au centre, dont la caractéristique, c'est qu'il est supraconducteur, comme tous les autres, mais en plus, on fait varier son courant de zéro à jusqu'à un champ de 11 tesla en environ une centaine de secondes. Et ça, c'est pour créer, finalement, le courant du plasma. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais il y a 15 millions d'ampères qui sont créés à l'intérieur de la chambre à vide. Et c'est créé par la variation du flux qui est induit par ce solénoïde central. Si vous vous souvenez de la loi de Lenz, hein, E égale moins dφ sur dt. Donc si vous faites une variation de flux, à ce moment-là, ça induit au secondaire une tension électrique, et c'est cette tension électrique qui va créer le plasma et qui va faire circuler le courant au secondaire du transformateur. Donc ça, cet objet est à moitié de sa construction à peu près. Là, ça c'est la chambre à vide, vous voyez, qui est en fait une double enveloppe qui est soudée sur des épaisseurs de l'ordre de 10 cm. Hein, donc ça, c'est fait en Corée, dans le Hyundai Heavy Industry. Alors ça, c'est la partie basse du cryostat. Vous voyez à peu près la taille du cryostat. Donc ça, cette partie-là est sur place actuellement. Hein, et on est en train de souder les parties verticales pour faire le cylindre. Donc c'est en cours de soudure. Vous voyez là, la taille des ouvriers indiens là, qui sur cette chose-là. Ah ben justement, on en est à ce stade-là, de souder ces parties verticales. Et vous voyez donc une photo de l'assemblage en ce moment. Ah oui, c'est le monsieur qui parlait de l'assemblage. Hein. Alors ça, c'est l'outil pour faire les huitièmes dont je parlais. Vous voyez la taille de ça. Donc ça se trouve dans le hall d'assemblage. Hein, c'est fait de deux. Vous voyez ça sur ces grandes colonnes qui permettent de faire pivoter un très gros élément de chaque côté. Donc vous mettez au centre la chambre à vide et puis vous mettez une bobine de chaque côté hein, qui sont transportées par ces parties verticales. Et puis vous les rassemblez. De façon à former votre huitième. Mais entre-temps, il faut habiller, bien sûr, toute cette structure de très nombreux éléments, hein, de diagnostic et aussi des réflecteurs de chaleur. Voilà, je crois que j'ai pratiquement terminé. Je crois que c'est important de dire que c'est un pôle scientifique mondial en France, hein, donc c'est quelque chose de très important. Si vous faites une carrière scientifique, vous serez peut-être amené à travailler dans ce cadre-là. Hein. Il y a à peu près déjà maintenant 3000 personnes sur place, il y aura à peu près 1000 scientifiques pendant l'exploitation. Il y en a déjà au moins 300 à 400, je pense. Il y a de nombreuses universités qui sont associées donc à ceci. En France, il y avait environ 40 labos, hein, 60 équipes, à peu près 200 scientifiques. Vous avez vu ce matin, je pense, Ouest, hein, qui est une plateforme qui est développée par le CEA, justement pour répondre un certain nombre de questions que se pose ITER, en particulier sur les éléments qui sont en face du plasma. J'ai déjà parlé des 7 agences domestiques, et chacune de ces agences domestiques a bien sûr des centaines de collaborateurs. Donc sur le plan mondial, on est quand même à environ probablement 10 000 personnes qui travaillent sur ce sujet. Il y a aussi une formation qui pourrait vous intéresser, master des sciences des plasmas et de la fusion. Il y a aussi un Erasmus Mundus qui s'appelle Fusion EP, qui fonctionne en ce moment, qui est un site. Ces deux-là, les sciences des plasmas et de la fusion et l'Erasmus Mundus Fusion EP, ont des sites web. Donc si vous vous intéressez à ça, vous pouvez consulter ou me demander d'ailleurs, parce que je suis le président du conseil scientifique de ces deux choses-là d'ailleurs. Ok, voilà. Et puis voilà à quoi ressemblera le plasma là, quand ce sera fini. Donc ça, c'est une vision d'avenir avec un élément là qui a une drôle de forme là, un Lego. Voilà. Je vous remercie de votre attention et on a